Radio Okapi. Interface.
Alimentaire en République démocratique du Congo, plus de 60% de la population vivent dans l'insécurité alimentaire modérée ou sévère, alors que 40% des enfants congolais sont en retard de croissance suite à la sous-alimentation. C'est ce qu'a affirmé le coordonnateur national de l'Observatoire congolais de développement durable, Modeste Nyembo. Pour faire face à la faim en RDC qui bloque le développement du pays, le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mboso, plaide pour la relance agricole. Le député Ados Ndombassi soutient même que l'agriculture soit classée parmi les secteurs stratégiques de la RDC. Mesdames et messieurs, bienvenue à ce nouveau numéro d'Interface qui se penche essentiellement sur des pistes de solutions pour la relance de l'agriculture en RDC. Dans cette émission, vous allez écouter aussi bien des politiques que des techniciens dans le domaine. À la coordination et à la présentation, je suis Michel Kifinagoy. Merci de rester à l'écoute. Fidèles auditeurs de Radio Okapi, encore une fois, bienvenue dans ce nouveau numéro d'Interface. Tout de suite, l'actualité hebdomadaire.
Interface.
Près de 2,8 millions de personnes souffrent de la malnutrition aiguë globale en République démocratique du Congo, dont 1,2 million d'enfants de moins de 5 ans en 2022. Dans un rapport intitulé SOS Enfants publié le 17 mai à New York, aux États-Unis, le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, UNICEF, indique que le taux de malnutrition sévère chez les enfants s'aggrave dans le monde à la suite de l'envol du prix alimentaire. L'UNICEF signale qu'en RDC, le phénomène demeure tout aussi préoccupant depuis les dernières décennies et le rapport place la RDC parmi les 10 pays qui représentent 60% de la charge mondiale de l'émaciation chez les enfants de moins de 5 ans. Pour lutter contre ce taux élevé de malnutrition chronique et sévère, les agences des Nations Unies, UNICEF, PAM et FAO mettent en œuvre un vaste programme de résilience afin de permettre aux communautés concernées de sortir de cette situation. Dans le Nord Kivu, le dit projet est effectif depuis 2021 dans les territoires de Walikale et Itébéro et vient de commencer à Nyiragongo et Rwanguba. Les détails avec Sifa Maguru.
Ce projet de nutrition est axé sur la prise en charge des malades, notamment les enfants de 0 à 5 ans qui sont les plus touchés. Il met un accent sur la sensibilisation et la formation des membres des communautés, notamment les femmes, afin de les apprendre à prévenir la malnutrition dans leur communauté. Pour les chargés de ce projet à UNICEF Goma, ce projet porte déjà ses fruits. Par exemple, au premier semestre 2022, plus de 1800 enfants de moins de 5 ans touchés par la malnutrition sévère et aiguë ont été pris en charge dans les zones de santé de Walikale et Itébéro, a précisé Georges Mukamba.
L'objectif de la nutrition dans ce projet s'inscrit dans la prévention de la malnutrition à travers la promotion de pratiques familiales essentielles, l'amélioration de l'alimentation des nourrissons et du jeune enfant, ainsi que la promotion de la croissance. Et souvent, on bute à ce problème. Il arrive des fois où les approvisionnements tardent parce que on a des problèmes de route, mais on a aussi certains coins où on a des problèmes d'insécurité. Donc l'accès n'est pas facile.
Notez que le Programme national de nutrition Pronanut et la Caritas sont les principaux partenaires de l'UNICEF dans ce projet.
D'après l'Observatoire congolais de développement durable OCDD, plus de 60% de la population vivent dans l'insécurité alimentaire en RDC. Le coordonnateur national de l'OCDD plaide pour une vraie politique agricole et l'allocation d'un budget conséquent au secteur de l'agriculture. Modeste Nyembo.
Globalement, il ressort des dernières données, des données de l'Institut national de la statistique, que plus de 41% des enfants congolais sont en retard de croissance. Et ce retard de croissance est imputable à la malnutrition. Et la faim cause 31%, plus de 31% de mortalité des enfants. Et elle est à la base des redoublements et des enfants à l'école. La réponse gouvernementale doit être d'abord reflétée dans son budget, parce que le budget, c'est ça l'outil de prédilection des gouvernances. Les ressources suffisantes doivent être reflétées à travers des investissements de qualité dans le secteur agricole. Aujourd'hui, si les routes de cette agricole sont réhabilitées, les agriculteurs, surtout les petits producteurs agricoles, peuvent produire et vendre au prix du marché, avoir des ressources pour répondre à d'autres besoins cruciaux qui touchent toujours l'alimentation.
Quelle politique agricole mise en place par le gouvernement congolais pour faire face à la crise alimentaire? Le ministre de l'Agriculture, qui était invité de grandes interviews il y a quelques mois, nous a décliné les grands axes de cette politique agricole. Désiré Mzinga Birianza est au micro de Alain Irung.
La politique agricole aujourd'hui de la RDC se base sur la revanche du sol sur les sous-sols. Parce que qu'est-ce que veut le peuple aujourd'hui? Le peuple veut à manger. Nous avons 80 millions d'hectares de terres arables. Si on les met en valeur, les gens vont se retrouver sans problème. On peut nourrir le monde, parce qu'il n'y a pas que le Congo. Au fait, c'est quand même décevant que l'on soit ministre et que l'on vous demande 1 million d'hectares, que vous commenciez à courir même chez les chefs coutumiers. Notre politique va se baser sur la sécurisation des maraîchers, des paysans, des petits agriculteurs, parce que même les agro-industries, on n'en a presque pas. Hein. On peut parler de Kanyama Kasese et puis Bukangalos. On créera un cadastre agricole qui protégera ces terrains de telle sorte que, parce que vous, vous êtes dans l'agriculture, même si on trouve de l'or en bas, que ça ne soit pas vraiment une priorité et que la priorité soit que l'agriculteur soit sécurisé.
Interface.
La question de la relance agricole est une préoccupation pour le Parlement congolais. Le président du Sénat estime que la loi de 2011 sur l'agriculture n'est pas susceptible à attirer les investissements dans les secteurs. Modeste Bahati-Lukwebo a proposé il y a quelques mois une loi rectificative encore sous examen au Parlement afin d'assurer la relance de l'agriculture.
Nous avons constaté que la loi qui a été promulguée depuis le 24 décembre 2011 sur l'agriculture n'est pas d'application parce qu'il y a certaines dispositions qui rendaient l'application quasiment impossible. Vous ne pouvez pas appeler quelqu'un, vous lui dites vous venez investir chez nous, mais c'est nous qui allons être majoritaires dans votre capital alors que nous n'avons pas amené le capital. Donc cette disposition a fait que beaucoup de gens qui voulaient investir n'ont pas pu le faire. Maintenant, nous proposons des améliorations pour qu'on puisse, c'est vrai, obliger que lorsque des étrangers viennent investir, qu'il y ait une participation minimale de l'État ou des nationaux, mais qu'on ne puisse pas bloquer les principes de la loi OADA en ce qui concerne la constitution des entreprises. Il y a d'autres innovation que nous avons apportée, il faut créer un fonds de développement agricole. Tout ce qui a trait aux activités agricoles, les intrants, les semences et autres, qu'il y ait des facilitations, des exonérations du matériel agricole.
Au cours de l'ouverture de cette session parlementaire de septembre, le président de l'Assemblée nationale a estimé qu'il est inacceptable que les Congolais meurent de faim alors que le pays est riche en terres arables. Christophe Mboso met donc le gouvernement devant ses responsabilités.
Nous avions salué les heureuses initiatives annoncées par notre gouvernement. Il s'agit notamment de 1. La relance des filières prometteuses stratégiques pour l'autonomie alimentaire et la relance de l'industrie locale. 2. L'encouragement de la création des unités de production des intrants agricoles. 3. La création et l'opérationnalisation des fonds de développement agricole. 4. L'installation d'une usine de montage des tracteurs agricoles en République démocratique du Congo. 5. Le soutien à la production agricole à travers notamment l'octroi de subventions, l'installation de grands entrepôts de stockage et de séchage et la distribution des outils et matériels agricoles. Afin de faire face aux effets de la crise alimentaire et garantir notre pays son indépendance alimentaire, j'invite instamment le gouvernement de la République à mettre en œuvre cet ambitieux programme à travers notamment des crédits conséquents dans la loi de finances de l'exercice 2023. Pour sa part, la représentation nationale réaffirme sa détermination à diligenter une commission parlementaire sur l'occupation des terres arables en République démocratique du Congo.
Interface.
Pour faire face aux problèmes alimentaires en RDC, le représentant de la FAO propose d'aller vers une agriculture durable tout en préservant les écosystèmes. En marge de la Journée mondiale des écosystèmes, Aristide Ongone Obame a plaidé pour une vraie politique agricole en RDC. Il s'entretient avec Jean-Pierre Elali Ikoko.
Monsieur Aristide Ongone Obame, bonjour.
Oui, bonjour.
Que peut-on retenir des systèmes alimentaires?
Très simplement, les systèmes alimentaires, c'est toutes ces étapes qui concourent à la bonne alimentation d'une population. On part de l'étape de la culture, comment cultiver. Pendant cette étape, on va arriver à ce qu'on appelle la récolte. Après la récolte, il y a le conditionnement. Après, va suivre la transformation, le transport, la commercialisation et la consommation. Pendant ces étapes, on va utiliser un certain nombre d'intrants. Ça peut être des semences, ça peut être des outils agricoles, ça peut encore être des fertilisants ou autres. Et nous utilisons aussi ce qu'on appelle les services, les institutions pour effectivement voir comment ces systèmes alimentaires fonctionnent.
Nous avons appris qu'un processus d'évaluation du système alimentaire de la République démocratique du Congo a été réalisé par le gouvernement. Quel a été l'objectif de ce processus?
Ce processus d'évaluation avait pour objectif, parce qu'il y a 50 pays qui avaient été retenus, où on a mené ce processus, c'était pour voir un peu l'état, pour parler simple, l'état de santé de ces systèmes alimentaires dans ces différents pays. En RDC, nous avons relevé, premièrement, que malgré le potentiel que vous connaissez, autour de 80 millions de terres arables, nous avons, première chose, constaté que la RDC peine malheureusement à nourrir sa population. Donc, elle recourt encore aujourd'hui à des importations alimentaires parce que les techniques culturales que nous utilisons encore au Congo sont des techniques qui ne s'adaptent plus. Alors, qu'est-ce qu'il faut? Au niveau institutionnel, il faut une politique agricole durable qui non seulement va permettre de produire suffisamment pour tout le monde, mais en même temps va préserver l'environnement. Cette politique n'existe pas. Avec l'accompagnement, bien entendu, de la FAO et d'autres partenaires, nous avons pu formuler cette politique pour la RDC. Elle existe aujourd'hui. Cette politique a relevé un certain nombre de défis auxquels il faut faire face.
Et quels sont ces défis?
Le premier défi, c'est au niveau des techniques culturales, tout simplement. Il faut comprendre que aujourd'hui, au premier moteur de déforestation en RDC, c'est l'agriculture, la culture itinérante sur brûlis. Il faut des innovations, il faut des nouvelles techniques qui permettent beaucoup plus de productivité. La productivité signifie tout simplement que sur une même superficie, on produise beaucoup plus qu'avant. Et puis, en termes de production, il faut pas regarder uniquement la production végétale. Nous avons également la production animale, tout ce qui concerne l'élevage, tout ce qui concerne l'aquaculture, c'est-à-dire la pisciculture et d'autres techniques. Il faut également regarder l'utilisation des produits forestiers non ligneux, qui participent aussi à la sécurité alimentaire. Pourquoi le secteur peine à démarrer? Parce que, voyez-vous, un secteur qui a réussi, c'est-à-dire le secteur agricole qui a réussi dans certains pays que vous connaissez, pourquoi ne réussit-il pas en RDC et dans d'autres pays africains? Parce que ce secteur est sous-financé. Et un secteur qui est sous-financé ne va jamais se développer. L'orientation qui avait été donnée, et à Malabo, et à Maputo, par tous les États de l'Union africaine, c'est de mettre au moins 10% de leur budget national pour développer ce secteur. Si nous revenons en RDC, nous sommes aujourd'hui à peine autour de 3%.
Mais là aussi, quand vous parlez de financement, je vois non seulement l'État congolais qui doit dans son budget national prévoir un pourcentage conséquent pour l'agriculture, mais aussi de l'apport extérieur et notamment de la FAO.
Je vais être franc avec vous. Un pays se développe effectivement avec des apports extérieurs, mais pas seulement avec ça. Aucun pays ne se développe seulement avec des apports extérieurs. Et puis ceux qui viennent comme des partenaires et qui font ces apports extérieurs dont vous parlez, regardent un peu quelles sont les priorités du pays. Les gens viennent vous appuyer en fonction des priorités que vous indiquez. Un pays est souverain. Un pays écrit son développement. Et les partenaires viennent l'accompagner. Ce n'est pas les partenaires qui viennent décliner une politique de développement d'un secteur. Par conséquent, le début c'est est-ce que le secteur agricole est prioritaire? Si oui, c'est là où vous aurez beaucoup d'apports extérieurs. Sinon, mais pourquoi voulez-vous que les partenaires viennent investir dans un secteur qui n'est pas prioritaire pour vous? Alors, l'indication, c'est ce niveau, cette orientation de 10%. C'est ça qui va nous dire, en tant que partenaire, que ce secteur est prioritaire. Mais tant qu'on est à 1, 2, maximum 3%, et quand on regarde le budget du pays, c'est clair que dans les faits, ce n'est pas encore prioritaire.
Monsieur le représentant de la FAO, je vous remercie.
Merci.
Ibale à Congo, c'est une composition de Papa Wemba. Face à cette crise chronique et sévère de malnutrition, les paysans congolais connaissent beaucoup de difficultés pour travailler la terre et nourrir leurs concitoyens. Dans cette émission, nous recevons Mamitio Mazono qui exploite environ 20 hectares au-delà d'Njili Brasserie pour répondre aux problèmes de famine de la population. Madame Mamitio Mazono, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Vous travaillez avec combien de personnes environ chez vous, sur quelle étendue et qu'est-ce qui représente votre production, par exemple, par semaine ou par mois?
Présentement, là, nous travaillons avec 11 personnes. La production mensuelle, elle est difficile de la calculer présentement, là, parce qu'avec tout ce qu'il y a comme changement climatique, et nos champs, nous les faisons trimestriellement, mais nous savons quand même tenir les deux bouts du mois avec ce que nous produisons, parce que ça permet au moins au travail d'avoir les rations et de vivre avec leur famille.
Et qu'est-ce que vous produisez concrètement?
Présentement, là, nous produisons les aubergines, et les légumes faits comme le pondou pendant la saison sèche, nous produisons le pondou, et puis les amarantes. Mais là, nous avons dans le champ la tomate que nous allons récolter d'ici un mois, et nous projetons semer les maïs, mais faute de pluie, nous ne savons pas encore mettre le grain sous terre.
Et du côté de l'élevage, vous avez aussi du bétail?
Oui, nous avons du bétail, nous faisons l'élevage de porcs, et nous avons quelques têtes de moutons et puis le chèvre.
S'il faut évaluer ou estimer le nombre de familles qui dépendent de votre production pour vivre, on peut estimer combien de maisons par exemple?
De façon directe, nous avons d'abord 11 familles qui dépendent de nous directement, ceux qui travaillent dans le champ, oui. Et puis, de façon indirecte, il y a plusieurs familles, hein, parce que si vous produisez par exemple 1000 bottes de légumes, si en moyenne une famille peut prendre deux, c'est 500 familles que nous nourrissons par production de légumes, feuilles, c'est déjà beaucoup.
Est-ce que la route est praticable pour acheminer facilement votre production?
Nous sommes au-delà d'Njili Brasserie. C'est-à-dire, si vous êtes chez moi à la fin pour arriver vers Sekomaf, faut faire plus ou moins 18 kilomètres. Donc, nous sommes un peu éloignés du marché. La route, elle n'est pas praticable. Mais du côté, quand vous venez vers Njili, quartier 1, les travaux ont déjà commencé. Nous espérons que dans les jours à venir, ils seront vers chez nous.
Alors, si jamais on vous demandait de proposer des pistes de solutions au Parlement pour que l'apport de l'État congolais soit assez significatif dans le domaine de l'agriculture où vous êtes investi, qu'est-ce que vous allez proposer concrètement?
D'abord, dans la prise de décision, on doit tenir compte de la personne qui travaille la terre. On ne peut pas prendre un médecin pour prendre la décision à la place d'un agriculteur. C'est quasiment incompatible. Comme dernièrement, il y a eu des travaux préparatoires pour la COP27. On parle de l'autonomisation de la femme et les changements climatiques. Mais dans tous ces rassemblements, on ne voit pas la femme qui travaille au champ. Commençons d'abord à identifier cette femme-là qui travaille la terre. Qu'elle nous dise c'est quoi son vrai problème. Pourquoi elle n'arrive pas à produire assez? Et qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'elle produise assez? Je pense que la solution sera simple.
S'il faut qu'on vous aide, vous, dans votre travail de chaque jour, qu'est-ce qu'on peut apporter de concret comme soutien à votre travail d'agriculteur?
Si nous travaillons grand, on produira aussi beaucoup. Nous avons besoin des intrants et des semences pour travailler. Comment à notre niveau nous pouvons arriver à fabriquer les composts pour fertiliser la terre? Mais on ne peut pas produire s'il n'y a pas de route, mon frère. Admettons vous produisez 10 tonnes de maïs. Tu vas mettre ça sur la tête pour amener sur le marché.
Madame Amitou Mazono, je vous remercie.
Merci beaucoup, monsieur Michel Kifindangoy.
Qu'est-ce qui fait que le secteur d'agriculture, toujours considéré comme priorité des priorités, n'occupe jamais cette place prioritaire en RDC? Docteur Alain Moukoua, président de l'Ordre national de médecins vétérinaires pour la ville province de Kinshasa, parle d'un complot contre la population congolaise condamnée à se nourrir des déchets importés. Docteur Alain Moukoua, bonjour.
Bonjour.
Qu'est-ce qui explique que l'agriculture et l'élevage n'aient pas la place qu'il faut en République démocratique du Congo?
En fait, c'est le décideur qui fait la politique générale du pays. Et dans notre pays, c'est comme si la République démocratique du Congo s'est décidée de consommer à la poubelle, alors que le potentiel de la République démocratique du Congo peut nourrir toute l'Afrique. Il n'y a aucune aide de l'État, il n'y a aucun encouragement dans le secteur. C'est comme si on était très heureux que dans les assiettes de tout le monde, qu'il puisse y avoir les déchets. Moi, je peux vous confirmer avec certitude aujourd'hui que 80 à 90% de ce que nous consommons qui vient de l'extérieur, ce sont des déchets. Même les poulets là, c'est les poulets des réformes que nous mangeons à Kinshasa. Comment on peut riposter contre un ennemi extérieur si on n'a pas suffisamment de nourriture?
Est-ce que le problème n'est pas au niveau de la population? Le gouvernement a jeté une très longue route de Matadi jusqu'à Kikwit et ce sont des terres arables de part et d'autre, mais il n'y a aucune initiative agricole.
Non, s'il n'y a aucune politique agricole, comment voulez-vous qu'il puisse y avoir de l'initiative agricole? Moi, je travaille dans les secteurs comme indépendant depuis une vingtaine d'années. Qui s'intéresse à quoi? Les décideurs n'est pas là. Ils surtaxent, même ce qui concerne l'agriculture et l'élevage. L'exonération, là, n'est que théorique. L'électricité n'est pas là, l'eau n'est pas là. C'est avec l'électricité qu'on peut produire certaines choses. C'est avec l'eau qu'on peut arriver à résoudre certains problèmes. Aidez ces peuples, aidez-nous à s'occuper de la terre et à produire. Nous devons aller de l'avant.
Vous avez parlé il n'y a pas longtemps d'un complot contre la République démocratique du Congo en ce qui concerne les secteurs agricoles. À votre avis, quel pays aura intérêt à comploter contre la RDC? Est-ce que le problème n'est pas au niveau national?
En fait, il y a un double problème. Le problème est au niveau national. Les décideurs ne prennent pas les bonnes décisions au moment qu'il faut le prendre. Et aussi au niveau international, de nous maintenir comme des gens qui mangent à la poubelle. Les étrangers, quand ils viennent, ils demandent pour créer des supermarchés. Là, les fonds pour la promotion de l'industrie les donnent. Mais quand ce sont les Congolais qui demandent quelque chose pour travailler la terre, personne ne leur donne. Donc nous sommes abandonnés à notre propre sort. L'agriculture et l'élevage peuvent constituer les socles pour une dignité humaine plus durable et plus forte. C'est la faim qui provoque toutes ces catastrophes, c'est la faim. Le peuple est affamé.
Docteur Alain Moukoua, je vous remercie.
Merci.
Nous recevons aussi dans cette émission l'ingénieur agronome Yves Pungi, pour qui le Parlement devrait voter un budget conséquent en faveur du secteur d'agriculture et le gouvernement devrait bien redéfinir la politique agricole. Ingénieur Yves Pungi, bonjour.
Bonjour, Michel Kifindangoy.
Que préconisez-vous pour que la RDC renverse la tendance et commence à exporter sa production agricole?
Je propose faire un état des lieux de l'agriculture paysanne. Normalement, les paysans devaient s'organiser en coopérative agricole. L'État congolais met à leur disposition des tracteurs pour les accompagner, en mettant aussi à leur disposition des agronomes des territoires qui existent jusqu'à aujourd'hui, mais ils n'ont pas de mobilité. Le point 2, il faut déterminer les contraintes qui bloquent les décollages du développement agricole. En tout cas, il y en a plusieurs contraintes. Ça, c'est un travail du ministère de l'Agriculture. Le point 3, il faut mettre en place les axes d'intervention stratégique pour améliorer les niveaux des revenus des paysans, développer les chaînes de valeur des produits agricoles, améliorer la production, améliorer la transformation et la conservation, mais aussi la commercialisation des produits agricoles. Et en dernier ressort, il faut mettre en place un mécanisme de lutte contre la pauvreté. Donc l'État congolais doit venir à subvention des agriculteurs pour que les agriculteurs s'y retrouvent.
Le Parlement étant en pleine session budgétaire, que lui recommandez-vous pour faire de l'agriculture une priorité en RDC?
Cette fois-ci, les députés nationaux doivent voter un budget conséquent pour les secteurs agricoles. Avec moins de 10% du budget qu'on met en agriculture, les problèmes de la malnutrition va toujours persister. À mon humble avis, je pense que s'il faut mettre 25% du budget à l'agriculture, nous pourrons renverser la tendance de la malnutrition à l'autosuffisance alimentaire.
Ingénieur Yves Pungi, je vous remercie.
C'est moi qui vous remercie.
Boya kobongi sa Congo agani, ebongi to sala, ebongi to sala, moto nyoso ata mwana. Congo ya mosolo, pembe ya nzoku, Congo ya bwanya, kasa ya mbila, Congo ya makasi, moto ya nkoi. Congo, Congo ne mboka, Congo, mboka ya bankoko. Congo, moko mwana pamba, lobi, moko lula yango. Congo, Congo ya Afrika, Congo, moka ya kitoko.
Congo Avenir, une composition de Tabouleï. Face à ces avis diversifiés des spécialistes dans les secteurs, les députés nationaux Ados Ndombassi, que nous recevons aussi dans cette émission, plaident pour que l'agriculture soit désormais classée comme un secteur stratégique de la RDC, à l'instar de la sécurité et de la défense nationale. Ados Ndombassi, bonjour.
Bonjour.
Que préconisez-vous en tant que parlementaire pour que la relance agricole en RDC soit enfin une réalité?
Pour combattre la faim à ce jour, il n'y a qu'un seul remède, c'est investir dans l'agriculture. Premièrement, nous allons interpeller le gouvernement à investir dans ce secteur. Dieu a tout donné à la République démocratique du Congo. Nous avons des terres, plus de 80 millions d'hectares de terres arables. Nous avons une main d'œuvre qui ne demande qu'à être exploitée. Secondo, nous allons demander, il faut faire du ministère de l'Agriculture un domaine de souveraineté, au même titre que le ministère de la Défense, le ministère de la Justice, le ministère des Affaires étrangères ou le ministère des Finances. Et si possible, faire du ministère de l'Agriculture une vice-primature qui sera gérée par une personne ultra compétente, une personne ayant un lien avec la terre.
Vous l'avez entendu, certains analystes soupçonnent qu'il y aurait une main noire d'importateurs de vivres en RDC qui bloquerait toute initiative de relance agricole locale. Que doit faire la RDC pour obtenir son indépendance alimentaire?
Malheureusement, cette main noire est entretenue par des responsables politiques et voire même militaires qui sont à la solde de certains hommes d'affaires étrangers qui ne veulent pas d'une RDC avec une autosuffisance alimentaire. Prenons le cas du parc agro-industriel de Bukangalonzo, où on sent une volonté politique à nuire à ce grand projet qui peut devenir l'un des greniers phares de la République démocratique du Congo. Avez-vous déjà vu dans le monde un gouvernement qui abandonne une moisson de 1500 hectares de maïs, soit 6000 tonnes de maïs, environ 6 millions de kilos de maïs, Nous avons besoin de patriotes capables de dire non à tous ces expatriés mafieux qui veulent réduire la République démocratique du Congo à néant. Mais nous avons aussi appris qu'il y avait un projet de vendre le parc de Bukangalonzo à une entreprise canadienne qui a pour objectif de planter du cannabis pour des fins pharmaceutiques. Mais nous disons clairement, aujourd'hui, la RDC n'a pas besoin de cannabis. Des 27 millions de Congolais qui sont en insécurité alimentaire, les 10 millions d'enfants qui souffrent de malnutrition ont besoin de maïs. Et c'est pour cela qu'en tant que député national de la République démocratique du Congo, Ados Ndombasi Banikina, je me battrai pour ce projet Bukangalonzo et faire en sorte que le gouvernement congolais puisse réellement investir dans le secteur de l'agriculture.
Ados Ndombasi, je vous remercie.
C'est à moi de vous remercier. Merci.
C'est la fin de votre émission Interface sur Radio Okapi, produite grâce à l'appui du PNUD. Michel Kifindangoy vous l'a coordonné et présenté sous la supervision de Jean-Marc Matwaki et Ben Kabamba. Vous pourrez écouter ce numéro mercredi à 15h30 et à 22h ou sur le site de Radio Okapi. Merci de rester fidèles à la fréquence de la paix. Au revoir.